C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour la 60e émission des boulons, l'émission des boulonnais. Vous êtes avec Marianne, je vais co-animer cette émission aujourd'hui avec Luc. Bonjour Luc.
Bonjour Marianne.
Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous aurons Charlie qui nous parlera de chaînes, de différentes chaînes YouTube. Martine, que nous accueillons pour la première fois aujourd'hui, qui viendra avec un sujet qui m'intéresse beaucoup, les soins énergétiques. Ensuite, Cathy nous parlera de Georges Brassens, avec une pause musicale de Georges Brassens. Puis Thomas viendra nous présenter un sujet intitulé « La réalité est floue ». Julien nous fera une chronique au sujet de Avril Lavigne. Nous accueillerons ensuite deux travailleurs sociaux de l'hôpital, Maëva et Guillaume, ainsi que leur stagiaire Marie, qui nous parleront un petit peu du métier de travailleur social à l'hôpital. Ensuite, ce sera interrompu par une pause musicale de Avril Lavigne. Nous reviendrons donc avec les mêmes personnes que je viens de vous citer. Puis Michel nous présentera sa chronique sportive. Aujourd'hui, il va nous parler de Tony Parker. Voilà. Et puis, il y aura quelques informations de conclusion. Voilà. Donc, pour cette 60e émission, pour cette première partie, autour de la table, nous accueillons Luc et moi Martine pour la première fois. Bonjour Martine.
Bonjour Luc. Bonjour Marianne.
Bonjour Martine.
Cathy.
Oui, bonjour, cher auditeur.
Marie.
Ah,
qui nous dit bonjour.
Bonjour.
Charlie.
Salut tout le monde.
Guillaume.
Bonjour tout le monde.
Et Maëva.
Bonjour à tous.
Avec Cédric à la technique. Bonjour. Alors, pour cette première partie, Charlie va nous présenter non pas une, non pas deux, mais trois chaînes YouTube.
Exactement.
Nous t'écoutons, Charlie.
Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter trois chaînes YouTube que je regarde et que je considère qui peuvent être regardées par tout public. Donc, la première... qui est Tataki, donc, qui est une chaîne de collectif qui parle de sujets de société. Donc, il y a un format qui s'intitule Anti-clichés, donc, qui casse les clichés, par exemple, sur les gothiques, etc. Après, il y a Immersion, il y a un membre qui va en immersion dans un lieu, par exemple, en UFC, dans le lieu de la prostitution, etc. Et puis, il y a aussi Yadeba, qui parle de harcèlement, de sujets LGBT, etc., etc., de quelques tabous, et c'est assez intéressant pour avoir un autre regard sur tel sujet. Donc voilà, donc là, la dernière vidéo que j'avais regardée, c'était l'homosexualité dans le foot, donc qui est assez discriminé là-bas, alors que le racisme, c'est réprimandé, donc après l'homosexualité là-bas, les sanctions, c'est un petit peu la main dans le slip, si je peux dire ça ainsi. Ensuite, la seconde chaîne YouTube que je vais vous présenter, il s'agit de Poisson Fécond, donc qui est une chaîne que je suis il y a très longtemps, donc qui parle de divers sujets, donc qui a trois formats. Donc le premier qui est 360 secondes qui parle d'un certain sujet, par exemple ceux qui m'ont marqué, le transhumanisme. Ensuite les ça fait quoi, donc qui parle du sujet, par exemple qu'est-ce que ça fait de manger des aliments périmés. Voilà, et aussi il a mis un nouveau format qui est l'intelligence des animaux, donc l'intelligence des poules et tout. Donc si vous regardez ça...
Des poules ?
Des poules.
Ah pardon, j'ai...
Et ça peut vous surprendre, voilà.
C'est-à-dire... développer un petit peu sur l'intelligence des poules,
ouais,
justement.
Par exemple, les poules sont capables de se reconnaître dans un miroir, de savoir compter jusqu'à 5.
Comme 1, 2, 3, 4, 5, elles savent faire ça.
Elles savent, oui.
Mais elles ont pas. Déjà, il faut avoir une main pour avoir 5 doigts. Comment elles font?
En fait, en prenant par exemple, certaines choses, quoi.
C'est-à-dire
un certain nombre d'objets ou...
Je préfère vous... regarder la vidéo par vous-même, vous allez
D'accord.
mieux comprendre.
Ok, ça voilà. marche.
Et ensuite, donc, la chaîne, qui est une chaîne d'une de mes passions depuis très longtemps, donc, qui est le rétro gaming, donc Edward, de la chaîne Rétro Découverte.
Le rétro, attends, allez doucement s'il vous plaît.
Okay.
Le rétro.
Le rétro gaming.
D'accord.
Voilà, donc qui est une... Alors,
c'est quoi ça,
Le rétro gaming, c'est la pratique des jeux vidéo anciens.
D'accord.
Donc de la Super Nintendo, enfin même la Wii, à l'heure d'aujourd'hui.
Ouais.
Et ce qui est bien avec cette chaîne-là comparé aux autres, c'est que en fait, Edward se met en fiction dans ses vidéos.
Edward, c'est le gamer.
C'est le YouTuber.
Le YouTuber.
Enfin, c'est limite un pseudo parce que de son vrai prénom, il s'appelle Joris.
D'accord.
Et une de sortie rétro-découverte que je peux vous conseiller,
ouais.
Bah, qui est justement Céleste, donc, qui parle un peu de son trouble de l'imposteur en tant que youtubeur. Et en plus, la thématique de Céleste, ça parle de dépression, donc ça parle pas mal de sujet mental, donc c'est un peu une chronique qui m'a un peu marqué. Voilà. Et il parle aussi, un peu dans ses chroniques, il met aussi en scène ses parents, ses amis, donc du coup, il y a pas mal de sujets autour de la thématique, comme par exemple le choc culturel entre les parents dans les années 80 et les jeunes vis-à-vis du jeu vidéo, etc.
Et vous pouvez donner des noms d'anciens jeux vidéo, si peut-être qu'on s'y retrouve.
Super Mario World.
Oui, voilà. C'est
un classique.
Oui.
Another World, qui est un jeu vidéo français, donc, ouais. Qui a été inventé par Eric Chahi, qui vient de l'Essonne.
D'accord.
Voilà, donc en fait, qui était assez innovant parce que il intégrait des cinématiques donc sur une console qui est l'Astrad.
Oui.
Ah oui, c'est ça.
Donc voilà quoi.
Ça nous parle ça.
Voilà, donc qui est une console assez ancienne et en plus le jeu il est muet mais voilà quoi, c'est assez intéressant. Je peux même citer Flashback dans le même genre.
Ok.
Super. Pong. Mais quand tu parles de trois chaînes, c'est comme à la télé.
Pas forcément parce que tu peux regarder YouTube, tu peux regarder des vidéos de manière non linéaire. Donc selon tes envies, etc. Mais après, je consomme un... Ok, c'est... je vous laisse.
Non, on consomme quoi ? Allez-y, je consomme.
De manière non linéaire.
D'accord, ok.
Super.
Merci bien.
Merci beaucoup, c'était très dense et très riche. Ça nous donne l'ouverture et la possibilité d'aller explorer ça aussi davantage. On va passer maintenant à Martine, qui est là pour la première fois aujourd'hui, notre chroniqueuse qui vient nous rejoindre. Donc bienvenue parmi nous, Martine, bonjour. Écoute, on est ravis de t'avoir parmi nous. Et moi, je suis particulièrement contente que tu sois là aujourd'hui parce que tu vas vraiment parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est lié à l'énergétique. Écoute, je te laisse. Vas-y. Et puis, à ton parcours personnel aussi, excuse-moi. Vas-y.
Voilà. Donc, je vais vous exprimer, en fait, mon témoignage de mon parcours de vie. Donc, cela fait 14 ans que j'ai été diagnostiquée schizophrène. Et aujourd'hui, je suis guérie des traumatismes du passé et la schizophrénie sommeille en moi. Néanmoins, le traitement est nécessaire. J'ai ressenti cela ce samedi 5 novembre 2021. Je sens un changement dans mon corps, dans mon essence. Je suis libre de dire ce que je vis, ce que je ressens et ce que je pense. Le parcours a été long. J'ai fait de la psychothérapie au CMP de Boulogne-sur-Mer avec différents psychologues et j'ai commencé les soins énergétiques que je fais toujours car cela m'apporte énormément. J'ai fait du magnétisme, de l'analyse et réinformation cellulaire, de la myostésie, des soins énergétiques. J'ai travaillé sur les mémoires karmiques et j'y travaille encore. J'ai fait de la lithothérapie, de la musicothérapie, de la thérapie par les arbres car la nature est guérisseuse. J'ai lu beaucoup de livres de psychologie et de développement personnel. En fait, dans cette vie présente, nous avons travaillé les problématiques de la petite enfance et les différentes périodes de ma vie qui m'ont posé problème. Effectivement, la schizophrénie est souvent due à une enfance rigide. C'est également un mauvais développement de la médiumnité. Maintenant, je vais vous donner la définition de ce que sont les soins énergétiques et chamaniques. Donc, un soin énergétique est un soin qui permet d'harmoniser, d'équilibrer le flux énergétique du corps et de l'esprit. Il dénoue les blocages, les nœuds et stress, autant mental que physique. Le thérapeute énergéticien utilise la lumière originelle pour soigner, voire pour guérir. Les soins chamaniques sont des techniques de guérison spirituelle issues des médecines ancestrales des peuples premiers et du chamanisme. Les peuples premiers partagent la même vision, la maladie, les désordres physiques, émotionnels, psychiques et énergétiques. Cela proviendrait d'un trouble au niveau de l'âme et d'une perte de pouvoir personnel. Les techniques de soins chamaniques permettraient alors de guérir l'âme et de redonner le pouvoir personnel à la personne. La perte du pouvoir personnel est générée par des événements marquants tels que déménagement, abus sexuels, viol, perte d'emploi, opération, traumatisme, grosse douleur, guerre. Il se traduit par de la dépression, coma, anorexie, boulimie, dépendance addictive. Le soin chamanique permet également de se reconnecter aux esprits du monde minéral, végétal et animal. Il nous ouvre les portes du monde invisible, subtil et bienveillant pour nous reconnecter à la terre-mère guérisseuse. Je termine par une citation du Dalai Lama. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel.
Eh ben dites-moi, Martine, pour une première rubrique, waouh, moi je vais vous le dire.
Sinon, j'ai une question à te poser en fait. Du coup, la psychothérapie, je connais ça un petit peu de nom, mais ça consiste en quoi ?
La psychothérapie, en fait, c'est l'analyse de soi, quoi.
D'accord. Et tu peux faire ça accompagné d'un psychiatre, d'un psychologue ?
D'un psychologue.
Intéressant.
Donc voilà.
Moi j'ai une petite question, Martine.
Oui.
Les soins énergétiques, les soins chamaniques, est-ce qu'ils sont en complément ou alors ils se substituent au traitement psychiatrique ?
Non, ils se substituent pas du tout, mais au contraire, ils sont très complémentaires en fait du traitement psychiatrique et tout ça, quoi.
D'accord.
Okay. Ils viennent en complément et il ne faut surtout pas arrêter son traitement, quoi.
Ça marche.
Okay. Du coup, les soins chamaniques, tu as découvert ça comment ?
Donc, en fait, j'ai regardé sur Internet et donc j'ai trouvé des thérapeutes qui faisaient des soins chamaniques, quoi, en fait.
D'accord, je te remercie pour cette information.
Merci. Merci beaucoup, Martine. Et merci à cette émission qui nous permet d'aborder ce genre de sujet. C'est super, vraiment.
Merci.
On va maintenant passer à la chronique de Cathy qui va nous parler de Georges Brassens. Bonjour, Cathy, on t'écoute.
Bonjour à tous. Georges Brassens aurait eu 100 ans, ce 22 octobre 2021. Ses chansons nous ont accompagnés toute notre vie. Plusieurs rééditions nous rappellent l'importance d'un chanteur et grand poète populaire au sens le plus noble du terme. Enfant, on le voyait comme ce monsieur à la moustache poivre et sel, regard malicieux, inaltérable pipe au bec, guitare sur les genoux et grenant d'immortelles mélodies pour cours de récréation, le petit cheval. Papa, maman, la chasse aux papillons. Monsieur Brassens, c'était du bonheur en chanson. Dans le salon résonnait gorille de pornographe, du phonographe, de près de toi. On se doutait qu'il y avait quelques mots interdits. Les parents riaient. On se disait que ce monsieur Brassens, c'était le vrai bonheur. Bien sûr, d'autres musiques nous attiraient, mais il était toujours là, dans un coin de notre mémoire et sur ce poster mythique avec ses copains Brel et Ferré. Brassens, c'était la vraie force tranquille, une langue millimétrée entre pureté classique et argot de trottoir. Sa sève, c'était Villon et Ronsard. Chanté dans la roulotte de Django Reinhardt, guitare, contrebasse, voix. Pendant plus de 30 ans, il n'a pas dévié d'un iota sa formule musicale de base, entre jazz et folk à la française. Fidélité à une certaine conception de la chanson, debout sur ses pieds, fidélité d'un amour fou de la langue, fidélité aux amis, à une douce idée de l'anarchie. Brassens était un fidèle et 40 ans après, il n'y a toujours rien à jeter dans son œuvre. En quelques dates, le 22 octobre 1921, naissait Georges Brassens à Sète, étudiant au collège Paul-Valéry de Sète où son professeur Alphonse Bornaf l'encourage à écrire. En février 40, il s'installe à Paris chez une tante, travaille comme tourneur chez Renault. En septembre 42, publication d'un recueil de poèmes. En 1943, envoyé en Allemagne au titre de STO, service au travail obligatoire, il s'évade et se réfugie à Paris chez Jeanne et Marcel Planche. En 1952, il débute chez Patachou qui interprète quelques-unes de ses chansons. Jacques Canetti lui fait enregistrer son premier disque, Le Gorille. 1954, premier succès à Bobino et à l'Olympia. En 1964, Grand Prix de l'Académie Charles Cros. 1976-1977, il s'installe à Bobino pour 5 mois de concert. Un cancer de l'intestin diagnostiqué, il met un terme à sa carrière. Puis le 29 octobre 1981, il meurt à Saint-Gély-du-Fesc. Voilà.
Merci Cathy.
De rien. Merci il était beaucoup. Intéressant ce poète.
Tout à fait.
Ouais. Tu vas nous proposer pour la pause musicale une chanson de Brassens justement.
Oui, je voudrais écouter les copains d'abord.
Alors allons-y, bonne écoute à tous.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en Perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les Boulons.
Les Boulons.
Les Boulons.
L'émission des Boulonnais.
Nous poursuivons notre émission Les Boulons, l'émission des Boulonnais. Et puis, sans plus attendre, nous allons laisser la parole à Thomas, qui va nous faire faire part de sa réflexion sur la réalité et floue.
Oui, bonjour à tous, merci Luc. Je vais vous soumettre une petite réflexion que j'avais eue sur la réalité. En fait, il existe donc la réalité, mais ce qui est important de concevoir, c'est qu'on a chacun sa réalité. Donc je partageais en trois grands points. La réalité des plus fragiles, ceux qu'on appelle généralement les fous. La réalité de la majorité de la population, qu'on appelle souvent les normaux, mais on peut se poser là toujours la question, qu'est-ce que la norme ? Et la réalité des élites, qui passent souvent pour les plus arrogants et qui peuvent paraître aussi déconnectés de la réalité concrète, plus pragmatique, qui serait moins terre à terre. Donc voilà. Donc ceux qu'on appelle les fous ont parfois une mauvaise perception de la réalité. C'est comme ça qu'on les définit. Donc souvent, ceci est dû à des traumatismes plus ou moins importants, plus ou moins graves. Et cela se mue ou se transforme ou en cercle vicieux, une aggravation de la folie, de l'aveuglement, ou en cercle vertueux, résolution et stabilisation. Ces deux choses apparaissent dans l'histoire individuelle et personnelle, le vécu de chacun, dans le temps des vies de chacun et de chacune. On peut parler de la prise de drogue, quelle qu'elle soit, ça n'arrange rien à l'aggravation de la folie. Et les efforts sur nous-mêmes nous donnent la possibilité de casser ces enchaînements malheureux. Donc pour soi et pour les autres, il est donc possible de casser un mouvement vicieux vers un mieux-être, pouvant donner lieu ou à la guérison ou à une stabilité. Mais il ne faut pas oublier que le hasard aussi décide parfois pour nous. Voilà, donc je vais vous parler maintenant de la réalité des normaux, ceux qu'on appelle les gens normaux. C'est en fait le peuple, c'est les gens majoritaires dans la société. Parfois, ils sont trop confiants, trop à l'aise avec eux-mêmes, ou trop en colère, trop hors d'eux. Et dans la jungle des nombreux médias, Internet, les téléphones portables, ça, le trop d'informations, il y a parfois des difficultés pour l'individu quelconque à gérer les informations. Donc en fait, la majorité aussi est capable de délire, de sombrer dans la paranoïa, voire le complotisme, comme on en parle beaucoup actuellement. Et il faut souligner aussi que le peuple est le plus puissant, car le plus nombreux, et peut-être même le plus influençant, est plus influençant que les déviants, la minorité souffrante dont je viens de parler sous le nom des fous. La troisième partie, donc, c'est la réalité des élites. Alors comme je disais tout à l'heure, elles sont souvent déconnectées de la réalité concrète, car soit trop riches ou trop puissants. On parle souvent de l'élite comme étant les patrons ou les hommes politiques, ou alors l'élite intellectuelle, trop dans l'analyse. Donc ils seraient encore plus puissants que le peuple, la majorité, car c'est eux les décideurs, surtout dans ce règne actuel de l'argent, de la consommation à outrance, qui cause de graves inégalités. Et l'élite intellectuelle peut elle aussi perdre la notion de réalité. Là, on peut faire référence au mythe d'Icare. Elle peut se perdre et donc tomber, se brûler les ailes dans des considérations inutiles, voire fallacieuses. En conclusion, je résumerai en disant que tout le monde veut préserver ses intérêts et son intégrité, quitte à parfois faire mal aux autres, à blesser psychiquement, physiquement, voire anéantir. C'est l'explication de l'aveuglement. Et la bonne question à se poser, c'est comment faire du bien. Donc les verbes importants, c'est aimer, aider, donner, partager. Et ceci, c'est vraiment la solution à la folie collective. Voilà.
Oh, super, merci.
C'est intéressant, Thomas.
Ouais, très, très sympa, intéressant. Hein. Ouais. Comment ça vous est venu, cette idée de chronique Personnellement, je n'ai même pas pensé à ces trois classes, ouais, en fait.
Ouais. C'est une fois, il y a quelques années, dans l'atelier radio, un voyage qu'on avait fait aux entonnoirs à Lille.
Ouais.
Et en fait, pendant le voyage, j'étais en questionnement comme ça, personnel, là-dessus, puis j'ai commencé à beaucoup cogiter, et j'ai réussi à noter quand même quelque chose. Et puis en fait, j'avais énormément de données à sortir, et j'ai tout écrit sur une dizaine de feuilles, et j'ai perdu cette pochette-là.
Ouais, je me souviens de ça.
J'ai perdu toutes mes feuilles, et j'étais tellement en colère, parce que j'avais eu l'impression de faire une réflexion intéressante, et j'étais tellement en colère d'avoir tout perdu que j'ai voulu recommencer, donc j'ai refait l'effort certainement moins poussé, plus résumé, et pour retracer tout ça sur le papier, quoi.
Écoutez, c'est d'une pertinence, mais j'en reste baba. Ouais, franchement.
Ça fait plaisir.
Super, non, très très bien. Merci bien, Thomas. J'en perds mes mots. Bon, ben maintenant, nous allons nous accueillir, n'est-ce pas, Marianne ?
Tout à fait, Luc.
Maëva et Guillaume.
Avant, il y a notre ami Julien.
Ah, ouais. Voilà, non, mais j'ai perdu le fil.
Oui, Luc est perturbé, là.
Je suis perturbé par...
Il vient de changer de catégorie, là. Ouais, petit éclair des folies traverse.
On va patienter, on va patienter. Enfin, on va faire patienter Guillaume et Maëva. Et je suis désolé d'avoir oublié Julien.
C'est pas grave, hein, c'est Luc.
Julien, je vais me rattraper et je vais vous poser des questions. Hein. On fait comme ça ? Ça marche ?
Ça marche.
Bon. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Qui est Avril Lavigne et que fait-elle dans la vie ?
Alors, Avril Lavigne, c'est une chanteuse et musicienne canadienne. Elle est née le 27 septembre 1984 et elle a sorti vendu 40 millions d'albums et 50 millions de singles. C'est aussi une auteure, une compositrice, une interprète, une actrice et même maintenant une styliste.
D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi de parler d'elle aujourd'hui ?
Bah, en fait, quand j'étais ado, j'étais en famille d'accueil et il y a celle qui était avec moi, elle m'a fait découvrir un peu ses chansons, puis bah, j'ai bien aimé, j'ai écouté et un peu par nostalgie, je voulais réécouter, vous faire partager un peu quelques chansons ou faits sur elle, quoi.
Ok. Pouvez-vous nous dire quelques faits sur son enfance et avant sa carrière, peut-être ?
Bah alors, depuis toute petite, elle aime chanter. Ses parents, ils ont remarqué tôt ses performances vocales. Elle commençait à chanter déjà à 2 ans. Et plus tard, à l'adolescence, on la verra dans des chorales, des karaokés, des foires. Elle écrit des chansons depuis ses 12 ans et des poèmes depuis toujours, selon elle. Sinon, à côté de ça, à côté de la musique, elle est hyperactive, en fait. Elle fait de la TDAH, ça lui pose des problèmes à l'école, par exemple. Et elle a encore soigné aujourd'hui pour ce trouble. Donc là, c'est à peu près tout ce que j'ai pour la partie enfance, quoi.
D'accord. Et avec quelle chanson s'est-elle fait connaître ?
Alors, avec son premier album « Let Go » en 2002, il sera deuxième album le plus vendu de l'année, selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Il est décrit comme un album de rock alternatif, avec un son orienté post-grunge, et il contient notamment les chansons « Complicated », « Skater Boy » ou encore « I'm With You », pour donner un exemple des plus connus, quoi. Ces 3 titres seront tous classés premiers au mainstream top 40 américain. Et bah voilà, c'est en gros avec ces 3 chansons-là qu'elle sera connue, quoi. Elle se sera fait connaître.
Ok. Ben, je vous remercie. Et puis maintenant, nous allons passer à Guillaume et Maëva. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, une petite question peut-être, Marianne ?
Ah, je commence. Alors,
c'est à vous, oui. Je vous laisse commencer.
Alors, Guillaume, Maëva, donc vous êtes venu aussi avec Marie, qui est stagiaire, je précise. Stagiaire de Guillaume, c'est ça. Mais vous êtes travailleurs sociaux de l'hôpital. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes précisément comme travailleurs sociaux ?
Alors, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation.
Et moi, je suis assistant social.
En quoi consistent les études, donc, du coup, pour devenir éducateur spécialisé ou assistant social ?
Alors, pour passer le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, donc il faut avoir le bac. Il y a un concours écrit et oral. Et ensuite, une fois qu'on rentre à l'école, il y a 3 ans d'études. Et donc, avec 4 domaines de compétences à valider.
C'est assez similaire pour les études d'assistant socio-éducatif, enfin d'assistant social, puisque c'est pareil, il y a un concours d'entrée au niveau des centres de formation. 3 ans d'études avec... une alternance entre l'école et des stages.
Ok. En fait, c'est quoi la différence entre un éducateur et un assistant social ?
Je dirais qu'on n'intervient pas forcément sur les mêmes établissements, les mêmes structures déjà. On n'a pas la même fonction en termes d'accompagnement. Moi, je dirais que pour ma part, ce serait plus accompagner sur tout ce qui est vie quotidienne, sur des structures liées au handicap, handicap, précarité, protection de l'enfance. Par contre, là, ici, au niveau du centre hospitalier, on a la même fonction. Mais pour moi, ce serait la différence.
Oui, c'est un petit peu ce que Maëva disait, c'est-à-dire qu'on a des fonctions qui sont similaires au niveau du centre hospitalier, mais qui sont qui peuvent être différentes au quotidien, au niveau des autres structures où on peut intervenir. Et c'est assez complémentaire. La chance qu'on a d'être en binôme, c'est que c'est complémentaire aussi bien dans l'approche que dans l'analyse, que dans les propositions d'action.
D'accord.
Ok, super. Donc, je ne vous pose pas la question de savoir ce qui est spécifique en psychiatrie. Du coup, on a bien compris que ça a rassemblé vos rôles, ce qui est super intéressant, d'ailleurs, je trouve. Vos lieux d'intervention spécifiques, par contre, sur la psychiatrie, c'est quoi ? C'est le CMP ? C'est l'hôpital ?
Alors, on intervient, on est sectorisé en deux parties, nord et sud, mais c'est assez similaire. Donc, on intervient aussi bien en intra qu'en CMP. On intervient également, par moment, sur certaines situations, on peut intervenir à domicile. C'est très, très diversifié.
On se déplace aussi au niveau des structures extérieures pour travailler tout ce qui est partenariat, le réseau.
D'accord. Si jamais quelqu'un a besoin de vos services, comment il fait ? Il doit passer par qui ? Il peut venir directement vous voir ? Est-ce qu'il doit voir le médecin ?
Normalement, la condition, c'est d'avoir un suivi médical ou paramédical pour pouvoir nous interpeller. Après, c'est de prendre contact, interpeller soit directement le médecin ou les équipes soignantes, ou de prendre contact avec nous. Après, nous, le lien, il est fait avec les professionnels qui accompagnent la personne dans tous les cas.
D'accord, okay. Merci. Donc déjà, on comprend un petit peu le rôle que vous pouvez avoir en général et au sein de la psychiatrie. On va marquer une pause musicale avant de vous retrouver pour d'autres questions. Elle nous a été proposée par Julien, donc c'est une chanson d'Avril Lavigne. Julien, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ta chanson, s'il te plaît ?
C'est une chanson assez récente, en fait, et ça parle... Enfin, c'est en anglais, donc ça dépend si vous comprenez l'anglais, mais...
Non,
ça
du tout.
Parle du...
un chouïa.
Non, du tout, alors allez-y.
Traduit.
Je suis pas non plus une bête en anglais, mais j'ai vu le clip et tout, et en tout cas, ça fait référence au coronavirus, quand même.
D'accord.
Merci. Et le titre ?
We Are Warriors. Enfin, Warriors. Je crois que c'est Warriors tout court.
Merci. Bonne écoute.
We'll pick our battles cause we know we're gonna win the war. We're not rattled cause we shattered all of this before. Steadier than steel cause we're ready with a shield and sword. Back on the saddle cause we've gathered all our strength for more. And we won't bow, we won't break. No, I'm not afraid to do whatever it takes. We'll never bow, we'll never break. Cause we are warriors, we'll fight for our lives like soldiers all through the night. And we won't give up, we will survive. We are warriors, and we're stronger, that's why we're alive. We will conquer time after time. We'll be fighting through the day and night. We'll be marching through the darkness till the morning light. Even when it's harder, like the army, you will see us shine. No, we won't stop and we won't drop until the victory is ours. No, we won't bow, we won't break. No, we're not afraid to do. We'll never break.
like soldiers all through the night, and we won't give up. We will survive. We are warriors. And we're
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
De retour parmi vous pour notre 61e émission des Boulons, l'émission des Boulonnais, avec encore la deuxième partie avec les travailleurs sociaux de l'hôpital. Nous avons donc quelques questions supplémentaires à vous poser. On dit que les assistants sociaux, ils servent qu'à faire des paperasses, c'est vrai ?
C'est vrai.
Je ne sais pas, je suis éducatrice.
On va attaquer le début du conflit.
Non. C'est vrai qu'on accompagne au niveau des démarches administratives. On peut accompagner au niveau des démarches administratives, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un accompagnement dans les projets de sortie des patients, dans les projets également de démarches administratives pour les personnes qui sont accompagnées au niveau du CMP.
Ouais. Pas de précision, Maëva ?
Non. Aucune.
Alors, moi, je suis à la recherche d'un appartement. Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Alors, on peut accompagner dans les recherches de logement hein, pour certaines démarches. Donc, tout ce qui est recherche de logement social, les contacts parfois avec les bailleurs en fonction des situations.
C'est un accompagnement dans les démarches, mais on n'a malheureusement pas le pouvoir d'attribuer des logements. On n'a malheureusement pas une réserve de logements et ça prend quelquefois du temps. Il faut savoir se montrer patient.
C'est bien de le préciser, je crois.
C'est pas trop éprouvant parfois d'être confronté à des situations de vie difficiles à longueur de journée ?
Ça peut, mais on a la chance, avec Maëva, de former un binôme, je pense, qui s'entend bien, et ça permet aussi de débriefer un petit peu ensemble. On est dans une équipe aussi, avec les infirmières, les médecins, enfin l'intégralité de l'équipe permet aussi de débriefer un petit peu ensemble, et de comprendre, et de se sentir correctement bien dans ses baskets.
Et puis je dirais que c'est, oui, ça peut être des fois éprouvant, mais c'est aussi une richesse au niveau professionnel et personnel, en fait.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette profession ? Est-ce que ce ne serait pas Joël Mazar ? Vous ne connaissez pas Joël Mazar ?
Ouais, ils sont jeunes.
Ah oui, Joël Mazar.
Vous n'avez pas connu Pause Café, Pause Tendresse ?
Véronique Jeannot, non.
Oh, avec l'assistante sociale.
Bon, bah alors, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette profession ?
Vas-y.
Pour ma part, j'avais envie d'aider, d'accompagner, surtout sur du long terme, les personnes, pouvoir apporter un plus, en fait, dans la vie des personnes que je peux accompagner et qu'elles aboutissent à un projet de vie, à bien-être, de répondre aux demandes, en fait.
C'est assez proche pour moi, dans le sens où, voilà, c'était l'idée de... Assez rapidement, enfin... vers la terminale, de se diriger vers une formation d'aide et d'accompagnement des personnes les plus en difficulté.
Et qu'est-ce qui fait que vous ne regrettez pas de faire ce travail ?
Bonne question.
Est-ce que vous regrettez ?
Oui, vous pouvez aussi.
Vous avez le droit.
Hein. Qu'avec la réalité,
pas de regret.
Non, il n'y a pas de regret. C'est enrichissant. C'est parfois compliqué, comme on l'a dit précédemment, mais c'est enrichissant. Et non, il n'y a pas de regret. Dans ce choix professionnel.
Bah ok.
Ok, bah parfait, c'est impeccable tout ça.
Merci.
Moi je vais justement profiter de votre venue, bah déjà vous remercier hein, d'avoir accepté l'invitation des Boulons, et je profite de préciser aux personnes qui nous écoutent, si à un moment donné il y a un mal-être, bah, n'hésitez pas à contacter les CMP, hein, Voilà, je vais rappeler les deux CMP. Le CMP Nord, avec le numéro de téléphone, c'est le 03 21 99 38 79. Et le CMP Sud, le 03 21 87 62 65. Voilà, vous faites l'un ou l'autre et on vous orientera. Oui, Guillaume.
Et si je peux juste me permettre de préciser que le service social de l'hôpital intervient vraiment dans tous les services. Voilà. Et donc on est une grande équipe de 20 travailleurs sociaux. Voilà, et du coup, il ne faut pas hésiter, même si en effet ici c'est plus spécifique au niveau de la psychiatrie du CMP, quelles que soient les difficultés au niveau de l'hôpital, vous pouvez faire appel au service social où il y a 20 travailleurs sociaux, une infirmière, un cadre, une secrétaire, il y a du monde qui peut vous accompagner, vous aider.
Voilà, très bien.
On profite de l'occasion pour saluer certains usagers, en particulier Fernand, Nelly et Vanessa, qui connaissent bien nos intervenants et qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui à l'émission. Tout de suite, je laisse la parole à Michel, notre chroniqueur sportif, qui va nous parler aujourd'hui de Tony Parker. Michel, on t'écoute.
Tony Parker, je vais vous parler de ce joueur français mythique qui a fini sa carrière le 10 juin 2019 à l'âge de 37 ans. Il est l'un des tout premiers Français ayant fait sa carrière en NBA, c'est-à-dire le championnat américain. C'est le troisième exactement. Il a commencé sa carrière tout jeune au PSG Racing. C'était un club qui existait en France, mais qui n'existe plus. Mais il a fait deux saisons de 1999 à 2001. Puis ensuite, il est parti jouer aux États-Unis de la saison 2001-2002 à la saison 2017-2018 au San Antonio Spurs, où il avait été drafté, c'est-à-dire c'est un mode de sélection, la draft hein, aux États-Unis. Et a fini sa carrière en 2018-2019 au Charlotte Hornets, soit 18 saisons en NBA, où il fut l'un des meilleurs marqueurs. Pourtant, il n'avait pas une taille impressionnante, quand même 1m86 pour jouer à un tel niveau, mais il compensait cela par sa vitesse d'exécution sur le terrain. Pour mémoire, Tony Parker est né à Bruges, en Belgique, d'un père américain basketteur qui est venu jouer en France et d'une mère hollandaise. Il a été appelé en équipe de France. À l'époque, on disait cadet, maintenant on dit U17, U16,
U17.
U17, oui, c'est ça. Ce qui lui a permis d'obtenir la nationalité franco-américaine. Ce qui a déclenché son envie de jouer au basket de haut niveau, c'est bien sûr le fait que son père était basketteur lui-même, mais c'est aussi après avoir vu à la télé les matchs de Michael Jordan, son idole, et Magic Johnson. Il a fait ses gammes de basketteur à l'INSEP à Paris, c'est l'Institut National du Sport. Il a ensuite fait ses débuts en pro au PSG Basket, comme je vous l'ai dit précédemment, puis a été drafté par les San Antonio Spurs, que l'entraîneur Popovich ne voulait pas au départ, mais qui a été intégré quand même dans l'équipe sur l'insistance de son adjoint qui le trouvait très bon. Tony s'est tout de suite plu à San Antonio et il fut choisi pour être premier meneur de jeu pour sa première saison. Son bilan en NBA est éloquent. 4 titres en 2003, 2005 et 2007 et 2014 où il a été élu meilleur joueur de la finale. Il a été 6 fois sélectionné au All-Star Game, c'est-à-dire c'est un match qui regroupe les meilleurs basketteurs de la saison. En équipe de France, il a été sélectionné 181 fois, avec 4 médailles, une en or au championnat d'Europe en 2013, une en argent au même championnat et 2 en bronze, toujours au championnat d'Europe. Il a été élu MVP meilleur joueur à l'Euro de basket en 2013. Alors Tony ne se doutait pas qu'il avait une telle popularité en France. C'est en venant faire les matchs de l'équipe de France qu'il a pu mesurer l'impact que cela pouvait avoir sur le public. Les maillots floqués à son nom, par exemple. Il a donc eu, outre-Atlantique, une carrière exemplaire. Premier titre NBA en 2003 pour sa deuxième saison. Pour l'anecdote, son record de points, c'est 55 points contre Minnesota le 5 novembre 2008. Mais pour arriver à ce niveau, il a beaucoup travaillé et son coach l'avait pris à part pour lui dire qu'il devait se comporter en patron sur le terrain, tout comme en équipe de France. Cela lui a mis encore plus de confiance en lui. Il a eu une grave blessure en 2017, une rupture du tendon du quadriceps gauche à 36 ans. C'était l'âge où il aurait pu arrêter. Au San Antonio, on lui a proposé le poste de troisième meneur, mais il a préféré partir dans un autre club où il aurait plus de temps de jeu. Donc il a fini au Charlotte Hornets, qui lui avait fait une proposition. Il fera sa dernière année car il sentait que physiquement, ça devenait assez dur. Dans son livre, il ne dit pas être déçu d'avoir fini sa carrière, dont près de 20 ans en NBA. Maintenant, Tony Parker s'est reconverti en homme d'affaires. Il a racheté le club de Lyon-Villeurbanne, ASVEL, dont il est le président, son frère étant le manager de l'équipe. Il a créé également des camps de basket pour les jeunes, des camps d'entraînement. Il accomplit également des campagnes de pub qu'il choisit sérieusement car il ne veut pas faire n'importe quoi et apporter une bonne image de lui-même. Voilà la carrière de résumé de Tony Parker.
Merci beaucoup, Michel. Eh bien, Luc, on arrive déjà à la fin de cette émission.
Déjà,
ça passe vite. Hein. Alors, un petit coup de projecteur sur une association locale avant de nous quitter. L'association Au mille et une aiguilles de Outreau, qui a été créée en 2003, qui se réunit les lundis de 13h30 à 17h30 et les mercredis de 17h30 à 20h à la salle des associations de Outreau. Donc c'est une association où on fait du tricot, du crochet, de la broderie, de la couture et j'imagine beaucoup de papotage et de bonne humeur. Si vous voulez retrouver cette association le lundi et le mercredi, vous pouvez contacter la présidente, Madame Martine Level, au 06 13 10 85 81. Je répète, association Mille et une Couture, Madame Martine Level, 06 13 10 85-81. Cette association sera par ailleurs présente sur le marché de Noël d'Outreau qui aura lieu les 17, 18 et 19 décembre. Vous pouvez aussi noter l'information. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 décembre à 13h pour la prochaine émission ainsi que le dimanche 26 décembre à 15h. On va se quitter avec la dernière chanson et c'est Véronique qui vient aujourd'hui nous la proposer. Véronique, on vous écoute.
Oui, bonjour. C'est Véronique, je voudrais dédicacer une chanson de Frédéric François pour mon amie Lucienne et de la part de Véronique Dinini aussi. Voilà. Frédéric merci. François, merci à tous.
Merci Véronique.
À bientôt et bonne écoute à tous.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Les boulons, les boulons, les boulons. L'émission des boulonniers.
Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère. À ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un désamour, un sablier sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Je pense à ma mère que j'aurais dû aimer comme une prière. et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps, encore temps. Un jour, il suffira d'un simple geste et d'entendre vos voix pour que ma vie s'éclaire dans une lumière qui m'accompagnera.